Où était la faute de l'ennemi? C'est pas qu'il n'avait pas la foi. Il y avait une erreur dans la foi. Ils croyaient comme il fallait croire au temps de leur père. Ils croyaient comme il fallait croire au temps de leur père. Ils étaient mamis, venaient mamis. Alors qu'il fallait être mamis au temps de leur père, la foi, c'est l'existence. L'espérance, c'est que la foi était la foi du juif de l'Église, de l'époque de l'Église, c'est-à-dire le juif. Et voilà qu'ils sont autant des fils, et ils continuent à croire comme croyaient les pères. Les pères croyaient que l'Église prendrait fin. Mais quand l'Église a pris fin, croire que l'Église prendra fin, c'est une erreur de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de foi, mais c'est une erreur. La pire des infidélités, c'est une erreur de fidélité. Ils sont restés fidèles à une étape du projet, à une étape déjà réalisée du projet, alors qu'il fallait être fidèle au projet ultime. Alors ils croyaient autant des fils comme ils croyaient croire autant des pères. Et c'était ça que Dieu explique à Moïse dans son ouvrage. Leur force n'est pas de ne pas avoir la foi, c'est de se tromper de foi. Mais en tout cas, voilà comment je comprends notre problème. Les contemporains de Moïse étaient, si vous voulez, en retard d'une époque concernant ce que Moïse leur révélait. Eh bien, je crois que c'est exactement ce que la société juive contemporaine est en train de vivre. Et continue à croire au temps des pères, alors qu'on est déjà au temps des juifs. À quoi croyez-vous? Un jour il y aura une paix. Alors, continuez à croire cela, alors que l'État juif est déjà là, et bien c'est ça le problème de la génération. Voilà, c'est pas compliqué. Et demandez des signes, alors que l'événement est là. Et il y a une magot. Vous voyez que tout ce qu'il y a dans ces livres, je voudrais lire quand même le texte, dans quoi quelqu'un levait la main.
Vous avez parlé des révélateurs de la révélation de l'Église, à l'époque de la révélation.
Tu vas comprendre. Je
pense que la dernière question que j'ai posée, c'était pas à propos de la véracité des textes qui vont concernant la fin de l'Église, de la réalisation du prophétie, et de retour à l'époque de la révélation.
Non, tu l'as compris. Il y a un cran à réaliser. J'ai parlé du temps hébreu, et que le temps hébreu est le temps de la révélation. Bon, la question est-ce que nous sommes maintenant de recommencement de la révélation? C'est ça la question. Bon, eh bien, il y a des conditions pour cela, que ce soit qu'ils sont habillés, dévoilés. De la même manière que c'est le même problème que pour la Chita. C'est quand tout le peuple, donc la majorité du peuple, et sur la terre d'Israël, que la Shrita est de Raïta. Et si ce n'est pas toute la majorité du peuple qui est sur la terre d'Israël, elle est née de Rabbanan. Alors je donne ça par analogie. Mais je suis persuadé pour ma part qu'il y a quelque chose de cet ordre qui a recommencé. C'est la langue hébraïque. Il ne faut pas oublier que la révélation est en hébreu. Il y a le nom de restauration du véhicule même de la révélation. Et vous êtes déjà d'une génération pour qui c'est une question d'expérience, de vivre sa vie juive et de penser son judaïsme en hébreu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans notre génération à nous, de notre âge, c'était impensable. Nous étions des juifs traduits. L'hébreu n'était pas accessible à notre génération. Et puis subitement, il a été restauré. Quand j'ouvre la radio et j'entends les chansonnettes, les chansonniers en hébreu, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis 2000 ans. Et prenez bien attention à cela. La littérature hébraïque, c'est l'esprit. C'est le commencement du monde. Et il y a eu un temps où il y avait des érudits qui comprenaient l'hébreu et qui se communiquaient entre eux, les individus d'élite, à travers les communautés. Un juda et lui, qui parlait à un guébureau. Mais aujourd'hui, les juifs se communiquent par les hébreux. Et le judaïsme est exprimé en hébreu. Et déjà, les goïs s'abreuvent au judaïsme dans les sources hébraïques. Bon, mais c'est quelque chose de simple. Je crois qu'il faut mettre en évidence. La prodigalité du miracle, c'est qu'on banalise le miracle. Alors c'est devenu tellement cadeau, donné, que ça s'est banalisé, on va plus de rire. Moi j'étais visitant des lampes, je ne sais pas comment vous dire. J'ai vu les premiers avions, les premiers téléphones. Et j'ai fait ça. Eh bien, avant ce temps-là, c'était impensable. Alors, subitement, nous sommes privilégiés, l'hébreu nous a été restauré. Alors, c'est normal. Quand les prophètes ont prophétisé, c'est parce qu'ils étaient élus. Vous avez trois midrashim dans le midrash Rabbah sur l'expression du chapitre 14 de Bréchit, Abraham a élu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était hébreu, Abraham hébreu? Connaissons les généalogies. Nous savons qu'il était descendant de Haïver, le midrash explique qu'il parlait hébreu. Tous les descendants de Haïver ne parlaient plus hébreu. Lui parlait hébreu. Alors il a fait le prophète. Bon, vous allez me dire que je vous fais un plaidoyer sur lui. Mais c'est pire que ça. Il y a aussi des faux prophètes. C'est évident. Il y a aussi des faux prophètes. Indépendamment du judaïsme pour fidélité à l'hébraïsme. D'une certaine manière, c'est très différent d'être juif ou d'être hébreu, mais il faut être juif pour être hébreu. Je ne sais pas comment dire ça, mais je crois que vous avez compris. Et c'est ce qui s'est produit au temps de la science. Énormément d'hébreux ont démissionné à la fin du temps hébraïque. Ils se sont perdus chez les goyim, en particulier l'allusion aux tribus perdues. Eh bien, les jeunes, sont ces hébreux qui n'ont pas complètement démissionné. Ils sont restés fidèles à l'hébraïsme en tant que juifs. C'est cette fidélité-là. Alors c'était plein de dangers. Et effectivement, il y a toute une idéologie de Pourim qui consiste à privilégier l'exil et à parler de rédemption de l'affaire d'Israël comme si ce serait une Torah en Israël. Ça existe. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vient de dire David. La tradition montre la différence entre Hanouka et Pourim. Hanouka, c'est un miracle qui a eu lieu en Israël, on dit la Hallel. Pourim, c'est un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël, on ne dit pas la Hallel. On va rappeler quelque chose, je ne sais pas au nom de quel rabbin de l'Église, ça a été dit dans un poème, au moment de l'enterrer. Alors on a cité quelqu'un, je ne veux pas m'attarder à le dire, c'est le Fatima ou quelqu'un d'autre, c'est que vous voyez bien que même en dehors des Israéliens, il peut y avoir un miracle. Il faut bien réfléchir au conditionnement de ces événements. Bon, nous étions sur un point précis. Que nous avons traduit. Je reprends à deux lignes avant le passage souligné dans la deuxième colonne. Les Rondabar, Chéou Moukhra, Nehouya, Enka Massara, Ubitouli. Pourquoi la Torah a été imposée? parce que toute chose qui est obligatoire, nécessaire, imposée, eh bien, n'est pas dans le cas d'être annulée. Aha, c'est où Moukha, puisqu'il est nécessaire. Et quand Moukha, et cela est démontré dans le Midrash, dans sa souffre, et l'autre qui est le Isha, le Moukha, ça n'est pas qu'on y a pas. C'est donc ce cas du mariage où l'épouse a été prise par contre, et où donc le mari ne veut pas la divorcer. Je voudrais insister là-dessus, il est très fort. Ça veut dire que nous avons eu ce privilège du Sinaï, que Dieu a jugé que la bonne foi d'Israël est dans un tel niveau qui s'interdisait de reprendre son alliance avec Israël, quels que soient les aléas de l'histoire postérieure. Et il faut dire d'ailleurs que il faut donner toute une épaisseur existentielle à cette indication du Midrash. C'est vrai, et d'ailleurs les chrétiens en particulier, pas seulement les chrétiens, mais d'autres aussi, ne sont pas très forts de le mettre en évidence. Israël passe son temps à faire comme s'il fallait justifier cette calomnie qui est un peuple rebelle. Dès que quelque chose est évident du point de vue de la Torah, on décide le contraire. Et parfois, ce sont les grands rabbins qui sont la même. C'est quelque chose de spectaculaire. À quel point, moi, c'est énorme, ça pose un problème. Et je crois qu'on ne doit pas étudier ce problème. Alors, laissons de côté la mauvaise foi de l'antisémite, prétend après les autres rebelles, mais il y a un problème objectif. Tout se passe comme si on passe son temps à jouer à ça. Mais il n'existe pas. Et là, on pensait à des problèmes qui le disent. Dieu s'adressant à Israël par le prophète, lui, il manquait-moi un peuple qui se conduit avec ses dieux comme vous vous conduisez avec moi. C'est même pas la peine d'illustrer, mais ça y est, le journal. Vous ouvrez le journal, n'importe lequel, hein, les lions, le ramasseau, et vous avez énormément d'exemples que, en Israël, même les grands d'Israël passent leur temps à faire le contraire de ce qu'ils pouvaient faire. Et avec une telle je ne veux pas vous donner d'exemple parce qu'on fait la politique de la politique. Mais en fait, c'est tellement systématique que je suis sur la vision actuelle. Je vais vous dire comment j'ai essayé de m'imaginer, un peu d'aménager un peu cette culture. C'est vraiment dramatique comme culture. De quelle nature est fait ce stock qui explique son histoire, qui expliquerait son histoire. Exactement comme il ne faut pas réagir, il réagit, et comme il faut réagir, il réagit pas. Il y a deux lignées. Il est une avant-garde qui montre le chemin, mais c'est dans des difficultés épouvantables et nous vivons dans l'existence de notre maintenant, ce qui a été le cas des différentes générations du passé depuis l'origine. Et je vais faire un peu de fond d'humour, enfin, j'aurai l'occasion une fois d'en parler. Il y a aussi une dimension d'humour. Assez colossal. Je vais vous résumer l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire d'une perplexité systématique à tout ce que Dieu lui promet. Alors imaginez la cohérence du récit. Dans le récit, on prend ça au sérieux. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et Dieu, c'est Dieu et Abraham, c'est Abraham. Et dès que Dieu promet que ça Abraham, Abraham dit à Dieu, c'est sûr, c'est énorme. Hein? Et nous sommes les descendants d'Abraham. Je vous donne un autre exemple. Quand, après une éclipse de... Le capitalisme. Et alors, ça nous le vivons vraiment à l'échelle quotidienne à travers toutes les péripéties de l'histoire. Et parfois, je suis pris de respect devant l'axis d'égoïsme. Ils ont matière à être difformés dans le tissu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et finalement, ils sont gentils, comme on dit dans la théologie. Ils pourraient être beaucoup plus compliqués. Alors, je me suis inventé une manière de m'expliquer ça. Voilà, un jour, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Il s'est dit par qui je vais commencer. Alors, il a eu une idée de Jésus. Il a dit, je vais prendre le peuple le plus difficile. Si ça marche avec lui, je vais passer des autres. Et tout se passe comme si c'était ça. Bien. c'est pas une stratégie pédagogique. Et une partie de vos questions, et pas seulement ce soir, en général, procède de cette attitude. C'est-à-dire s'ingénier à se démontrer le contraire, de ce qu'on croit soi-même. Je ne sais pas si c'est clair. Ah, j'ai dit moi. Alors, je continue le texte en hébreu, que je sais pas que nous avons la fête Torah à la Sinaï, Kafa Alema, Kabi, Chikabu Torah. Et qui va, en ce cas, à Réisraël, à Moussato, c'est la catégorie. Puisqu'il en est ainsi que Dieu a imposé la Torah par contrainte au Sinaï, Israël est à Moussato, c'est la catégorie. C'est plein de poésie. Israël est le marin de Dieu. À Moussi. Comment traduire ça en français? Non? Oui. C'est la douce à Tokti, mais l'autre qui vient les chats, le Yonah Chalecha, Koliama. Vélofen, Edel, Amefam. Ce n'est pas le cas pour celui qui s'est demandé à séduire une femme après le mariage, le divorce qui est envisageable. Pour une petite parenthèse, pour son étudier au fond, surtout dans la Gomara, cette question, on s'aperçoit qu'en principe, la Torah n'aime pas le cœur. Il y a des textes très profonds dans la Gomara. Concernant le vide de la vérité et du divorce. Mais la Torah est une Torah de vérité, et par conséquent, elle s'exprime, elle donne la loi pour le monde tel qu'il est, et dans le monde tel qu'il est, eh bien, elle envisage la cause de la possibilité du divorce. Mais en fait, comme dit la théologie catholique, un mariage authentique se pense en dehors de l'éventualité du divorce. On ne se marie pas à l'esprit. Le mariage est par définition irréversible. Seulement si, qu'à Dieu ne plaise, il faut qu'on divorce, alors la Torah prévoit que le divorce est possible, mais elle n'aime pas ça. Tu vois, il disait qu'un mariage ça fait deux heureux, mais un divorce ça peut faire quatre heureux. Et... comme vous savez, je vais encore faire quelqu'un. Dans l'ordre des traités du Talmud, on étudie Maseret Gittin avant Maseret Kiddushin. Vous savez ça. Avant les Yeshivot, on a l'habitude de dire que Magdim Refou à la Maka. Alors on étudie d'abord Gittin après Kiddushin. Mais en vérité, il y a une raison beaucoup plus importante. C'est qu'on étudie d'abord les cas de divorce, si qu'un Dieu ne plaît, il y a divorce. Et ensuite, on étudie le cas du mariage après lequel il n'y a pas de divorce. Alors d'abord on étudie Kiddushin, c'est pas Kiddushin, et après on étudie Kiddushin. Voilà donc quelle est la notion qu'il y a là. Je vais terminer ce moment de l'analyse de la manière suivante. Lorsqu'on prend à descendant la secrétaire de l'actif de Moïse, ils ont matière à être différents. Et finalement, ce sont gentils, comme on dit dans. Il pourrait être beaucoup plus. Alors je me suis inventé une manière de domestiquer. Voilà, un jour, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Il s'est dit par qui je commence. Alors il a écouté Jésus. Il a dit je vais prendre le peuple de Dieu. Si ça marche avec lui, je vais passer des sens. Et tout se passe comme ça. C'est comme ça. Bien. D'ailleurs, je vous dirais, c'est pas une stratégie pédagogique, une partie de vos questions, et pas seulement ce soir, en général, procède de cette attitude. C'est-à-dire de s'ingénier à se démontrer le contraire, de savoir qu'on croit quand même. C'est pas si clair. Mais dis-moi. Alors, je continue le texte en hébreu, que je sais pas que nous avons. La fête Torah à la Sinaï, Kafa Alema, Kabi, la pierre a été différente. Et finalement, ce sont gentils, comme on dit dans la théologie. Ils pourraient être beaucoup plus. Alors je me suis inventé une manière de domestiquer. Und dann hinten wieder das Licht zu regeln. Ich bin nicht nach Kiel gekommen. Dann habe ich eigentlich ein Mädchen. Ja, die Frau mit dem Kopf. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen passiert. Ich bin zu gut, dass ich mich nicht mehr verraten. Bien. D'ailleurs, je vous dirais, c'est pas une stratégie pédagogique. Une partie de vos questions, et pas seulement ce soir, en général, procède de cette attitude. C'est-à-dire de s'ingénier à se démontrer le contraire. De soi prendre quoi soi-même. Il faut pas qu'il s'y ait. Mais dire moi. Alors, je continue le texte en hébreu. Que je sais pas que nous n'acceptera la Sinaï, qu'à faire les mains, qu'à vivre chez Gabriel Thomas. Et qu'il va, en ce cas, à réussir à nous s'attendre sur la catégorie. Puisqu'il en est ainsi que Dieu a imposé la Torah par contrainte de Sinaï, Israël est à nous s'attendre sur la catégorie. C'est plein de poésie. Israël est le marin de Dieu. Comment ça veut dire en français? Oui, je m'en fous. Je l'ai. Mais c'est la douce à toxique, mais l'autre qui est les chiens, le local se n'est pas, Koliama. Mais l'offre est-elle à mes femmes? Ce n'est pas le cas pour celui qui se demandait à séduire une femme. Après le mariage, le divorce est envisageable. Je vous dis une petite parenthèse. Quand on étudie au fond, surtout dans la Gemara, cette question, on s'aperçoit qu'en principe, la Torah n'aime pas le cœur. Il y a des textes très profonds dans la Gemara, concernant le divorce et la vérité du divorce. Mais la Torah est une Torah de vérité, et par conséquent, elle s'exprime, elle donne la loi pour le monde tel qu'il est, et dans le monde tel qu'il est, eh bien, elle on dit, elle envisage la cause de la possibilité du divorce. Mais en fait, comme dit la théologie catholique, un mariage authentique se pense en dehors de l'éventualité du divorce. On ne se marie pas à l'esprit. Le mariage est par définition irréversible. Donc si, qu'à Dieu le plaise, il faut qu'on divorce, alors la Torah prévoit que le divorce est possible, mais elle n'aime pas ça. Bah, tu disais qu'un mariage se fait deux heureux, mais un divorce peut se faire quatre heureux. Comme vous savez, je ne vais pas faire ça, dans l'ordre des traités du Talmud, on étudie la Maseret Kittim avant la Maseret Kiddushin. Vous savez, avant les Yeshivot, on a l'habitude de dire que Marguerite aurait fou à la Maca. Alors on utilise d'abord une petite affinité. Mais en réalité, il y a une raison beaucoup plus importante. On étudie d'abord les cas de divorce, si Dieu le plaît, il y a divorce. Et ensuite, on étudie le cas du mariage, après lequel il n'y a pas de divorce. Alors d'abord, on étudie le juge, et après on étudie le juge. Voilà donc quelle est la notion qu'il y a là. Je vais terminer ce moment de l'analyse de la manière suivante. Lorsqu'on prend acte de la manière dont la Torah a raconté l'histoire de cette alliance entre Dieu et Israël, et c'est à travers ces différents niveaux de l'histoire des patriarches, et bien on s'aperçoit de la même chose. Je prends l'alliance avec Abraham. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Vous avez bien le texte. Et c'est une légende de Dieu que Abraham a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Et c'est le Midrash qui nous dit que cet Abraham que Dieu a choisi, c'est un Abraham qui avait choisi Dieu. Mais le récit de la Torah commence quand Dieu choisit Abraham. Et là, on est assuré. Quand c'est Dieu qui choisit, il n'y a pas de caprice de motivation de la volonté. C'est absolu et irréversible. L'alliance va de Dieu à Abraham, elle est irréversible. Si l'alliance allait d'Abraham à Dieu, elle serait aléatoire. Un jour, Abraham choisit Dieu, un autre jour, il choisit pas. C'est le problème des chancelles, et un jour on est chancé, l'autre on n'est pas chancé. Mariage, c'est mariage. Il y a une différence de nature. Et donc voilà comment on a expliqué ce qui se passe à Chavour. À Chavour, la Torah a été donnée par contrainte. Et la Torah qui a été donnée à Chavour est a priori de la foi. Alors qu'à Simchat Torah, la Torah est acceptée dans la joie et elle est acceptée après l'expérience que, compte tenu de l'éventualité de la faute, de la certitude, pardon, lorsque la mission est écrite. Alors on voit donc que c'est à travers la structure du calendrier que c'est clair ce décalage de minutes comme ça, entre Shavuot et Sukkot. Mais en plus, il y a une analogie. De la même manière que Shavuot est, en quoi que ce soit, le huitième jour de Pessah, c'est le Mihara, c'est-à-dire que le huitième jour de Sukkot est Simchat Torah. Simchat Torah est le huitième jour de Sukkot, comme Shavuot est le huitième jour décalé de cette semaine de Pessah. Vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre ce parallèle. Je signale encore une indication à ce sujet, c'est dans le cadre de ma semaine, Yom Kippour est appelé la Torah. Parce que c'est le Yom Kippour que la Torah a été de nous donner. Les deux deuxièmes termes ont été donnés, le fichu. Je voulais mettre en évidence cela. Alors que dans toutes les fêtes, la Torah prévoit Vesa Martin Mechanicha, à Sukkot, il y a quelque chose de supplémentaire. Non seulement les Sarah, mais ça Martin Mechanicha, c'est que le lien à la Torah, à Simchat Torah, est dans la joie, encore une fois, parce que la Torah est acceptée au niveau de l'existence pour ce qui est pécable, dans l'éventualité de la faute, dans la certitude. Si la Torah existe, elle peut être pardonnée. Voilà ce que je voulais dire sur la première partie de ce texte. Je crois que vous pouvez d'ailleurs de continuer le reste par vous-même, puisque la douleur savante, vous allez quand même avoir pourquoi il est milieu. Écoutez, vous allez avoir 5 minutes, il y a encore une ou deux questions, et puis tout de suite après, on fera les scribons. Alors, je vous demanderai que les hommes se groupent devant et les femmes derrière, restez dans la même salle, pas la peine d'aller de l'autre. Et puis, les Hazanim qui veulent participer au Sukkot viennent se groupe avec vous. Alors, vous avez la parole sur ce premier point. Répétez, je m'entends bien. Ah oui. Oui, vous souvenez que je fais allusion au verset que Dieu a félicité Moïse d'avoir brisé les premières tables. Je vous rappelle le texte en hébreu. Et à l'ouvrage d'Arishoni, Asher Shibarta, et le Midrash dit Yachar Kochacha Shibarta. On va attendre qu'il n'y ait pas de bruit, et Dieu est sélectif. Voilà, vous avez donc résumé de la question en tête. Lorsque le peuple est en train de pratiquer, en train de faire la faute du mot d'ordre, on est confronté à une situation difficile. La loi vient d'être promulguée. Et voici que pendant ce temps, la faute qu'interdit la loi est en train d'être faite. Alors, pour deux choses, ou bien le peuple est détruit, ou bien les tables sont détruites. Pour sauver le peuple, Moïse supprime la loi. Voilà ce qui se passe. Dans le Coran du récit, on est tenté de croire, mais c'est parce que le pshat du texte, que de colère, Moïse a pris les tables et les a brisées. Or, Moïse est... Oui, qui porte la loi au peuple, et vu la signification de l'événement, on ne va pas se laisser aller à un jet de colère, briser les tables de la loi. Ça, c'est une mentalité psychologique de l'infantile. Il ne s'agit pas de ça. C'est que Moïse, intentionnellement, brise les tables de la loi pour que le peuple se sauve. Parce que le peuple est en faute, que par rapport à cette loi. Si cette loi n'est pas donnée,
le peuple n'est pas donné.
Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est pourquoi Dieu félicite Moïse d'avoir fait cela. C'est-à-dire, c'est le désir de Dieu de mettre la loi entre parenthèses, le peuple se dit. Pour l'aménager, on peut l'expliquer de différentes manières. Il y en a une qui me vient à l'esprit maintenant, mais je sais qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire, bon, le peuple n'est pas encore au niveau de ce peuple. Mais c'est ce peuple qui sera au niveau de cette loi. Pour le moment, il y a une grâce qui nous dit en clair, Moïse fait et dit, quand tu t'es adressé à Israël, tu t'es adressé au Seigneur Dieu, c'est alors que tu parles. Et dit, l'Oïe et l'Echaïe, c'est alors que tu parles. Tu maintiens ton Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu de mon pas. Ils ne sont pas d'enfants. Quand tu as les punis, du moins qu'ils ne concernent que moi. Qu'est-ce que signifie ce livre? Ça veut dire que, en ce moment-là, Moïse était au niveau de cette Torah. Les autres pas encore. Il s'est échelonné sur la montagne. Chacun a entendu cette même loi au niveau de ce sujet. Ça veut dire que c'est eux qui sont concernés par cette loi. Et au stade du moment de cette histoire, ils ne sont pas encore suffisamment à ce niveau, mais ça ne veut pas dire qu'un jour ils ne le seront pas. Par conséquent, c'est la loi qui est anticipée, c'est pas le peuple qui est en train. Je crois que d'abord il faut bien comprendre ce principe. D'un point de vue plus que juridique, d'un point de vue moral, il n'y a faute que par rapport à une norme. Et par conséquent, si c'est encore le temps de légitimité de cette norme, il n'y a pas encore. Je vous donne un exemple. D'après la Kabbalah, avant que Moïse, avant Abraham, se soit servi, le syndic, la génération, c'était Terah. Et Terah, dans cet enseignement de la Kabbalah, c'est Job, il y a eu différentes hypostases, différentes incarnations. Et une des incarnations de Job, c'était Terah. Il a commencé à souffrir quand Abraham s'est servi. Ça veut dire que Job, c'est le juste du temps précédent. Il est incapable de s'adapter aux nouvelles normes, aux nouvelles valeurs du temps qui vient, et alors il commence à souffrir quand le juste du temps suivant est apparu. Vous comprenez un peu ce que je dis. C'est-à-dire, tant qu'Abraham n'est pas là, c'était rare qu'il est servi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ça explique aussi bien les qualités. Vous allez comprendre la raison. D'une certaine manière, c'est la faute des vertueux que les non-vertueux soient punis. C'est pourquoi les non-vertueux n'aiment pas les punis. C'est à cause de tout. Dans les derniers, j'ai deviné ce que tu veux dire, mais je n'ai pas pu le voir. Mais je voudrais terminer là. Rappelez-moi la question. Ouais, je pense que rappelez-moi la question. De quoi est-ce que tu veux parler? Oui, je termine là. Alors, la question est la suivante. L'initiative qu'a prise Moïse, c'était ce que j'étais en train d'expliquer. Si la loi est mise sous le boisseau, il n'y a pas de faute. Ça veut dire que c'est une manière préhistorique de reconnaître Dieu. Mais au temps de cette préhistoire, c'était la manière légitime. C'est parce que la Torah est là que ça devient préhistoire. C'est clair l'idée. Donc, alors, Moïse a fait cette initiative, et Dieu l'a fait. La réponse n'est pas simple. C'est-à-dire, la Torah, c'est la vérité. Dieu ne peut pas emporter atteinte à la vérité. Mais il souhaite que Moïse le fasse. Quand Moïse le fait, il le fait ici. Mais lui, il ne le prend pas. Dieu ne va pas briser l'étape de la loi. Parce que la loi, c'est la vérité. Et c'est la grandeur de Moïse de Moïse. Pas si j'ai suffisamment entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était le temps où la loi venait d'être donnée. C'est-à-dire au temps immédiatement précédent, elle n'était pas donnée. C'est-à-dire au temps immédiatement précédent, cette conduite du Vaudor, ce n'était pas une faute. Alors l'initiative de Moïse a été de remettre le peuple, la génération du peuple, dans les conditions du temps immédiatement précédent, où reconnaître Dieu à travers les signes du zodiaque, ce n'était pas une faute. C'était la religiosité du temps. C'est par rapport à la Torah qu'il faut. Quelle aurait été la base de la Torah? Il n'y avait pas fait de Torah. tanto son que con gente que se y son que le cojo. No, c'est comme ça, je crois que c'est ça. Oui, je crois. Et pour comprendre, c'est pas tout le peuple. Il y a une partie du peuple qui n'a pas fait. Et il y a une intercession de Moïse. Alors, nous avons parlé d'intercession de Moïse, on arrivera à ta question. En fait, vous remarquerez, on va pas quand même voir le texte en détail, mais dans la page de 10, vous verrez qu'il y a deux prières de Moïse. La première prière, concerne la erreur qu'elle a fait là. Et Mashtera, la première prière concerne Israël alors que la faute a été faite pour la erreur. Voilà quelle est la raison. Si la erreur est détruite, Israël est obligé de retourner en exil. Parce qu'une des raisons de la sortie de l'exil, c'était d'emmener la erreur à l'exil. Autrement, ce qui dira à Bayoma, une des raisons de l'exil, c'est d'aller retirer les étincelles de sainteté qui seraient enfuies dans l'impureté chez les nations. C'est le LFA qui représente ces étincelles de sainteté encore enrobées de l'impureté des nations que le peuple a pris avec lui à la sortie d'Égypte. Alors si le LFA est détruit, les objectifs de l'exil disparaissent pour retourner en Égypte. Donc pour sauver Israël, il fallait pardonner la LFA. C'est la raison pour laquelle la première prière de Moïse concerne Israël, alors que la faute était faite par l'Élève. Lorsque Dieu accepte de pardonner à l'Élève pour sauver Israël, alors Moïse a prié pour l'Élève. Maintenant que l'Élève est considéré comme Israël, alors la faute est une faute. Et donc, je suis prié. Voilà comment je réponds. Bien. Est-ce que ça veut dire que ça va être un sujet? J'ai pas compris. Ah, je crois qu'on est déjà dans la table de plus qu'un cinquième. Un cinquième, c'est un statistique dans la galaxie, dans l'analogie avec la Saint-Égypte. On est déjà plus qu'un cinquième, pas tellement parce qu'il y a plus de dossiers, mais parce qu'il y a moins de vie que les autres. C'est une question démographique. Bon. Et alors, quoi répondre à ta question? Je veux dire, où est la responsabilité des Israéliens par rapport aux Juifs sur la façon dont ils sont? Mais je crois qu'elle est totale. Vous avez dit ça, je crois que la faute c'est la complaisance. Ce sera un tout autre sujet, mais je crois qu'il y a tout un réaménagement du vocabulaire dans le dialogue entre juifs et israéliens qui voudrait récupérer. Je vais vous dire, quand un rabbin israélien s'occupe d'une communauté de diaspora, alors quelle que soit la manière dont il s'exprime, voilà comment c'est entendu en diaspora. Eh bien, on vous félicite, vous êtes quand même plus, c'est très bien, vous avez des écoles, on va vous aider, on va vous envoyer des chrétiens, il faut absolument tenir le coup, continuer, vous n'avez pas le mérite que vous avez, vous êtes plus chez les Juifs, c'est fantastique. Alors que le rabbin en question a dit le contraire. Il y a tout un réaménagement du vocabulaire. Je crois que parmi les plus hautes autorités d'ailleurs du rabbinat israélien, c'est un geste pour le coup. Pardon. Vous avez à Paris le Yom HaTorah. Bon, dans ce Yom HaTorah, il n'y a aucune allusion à l'Israël. Mais aucune. Mais on invite le grand Ben Israël à bénir le Graal. Et le grand Ben Israélien, il bénit le Graal. Il leur dit ce qu'il a à leur dire, ils n'ont traduit pas en français les parties qui pourraient être prises pour visionner du décret de Dieu. Mais dans le temps, le grand Ben Israël est venu bénir le Graal. D'ailleurs, maintenant, on entend.